Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, donc, comme toujours, dans ces magnifiques studios de Keylus, avec des sympathiques groupies qui sont venus nous voir. Bon, certains ont la moustache, mais ils font un grand sourire. Et donc, on est content. Compte à rebours, vous connaissez, bien sûr. Eh bien oui, ce sont des contes, des histoires, des légendes. Et eh bien, en ce moment, on est parti au Moyen-Orient, dans les mille et une nuits, et on va continuer ce voyage. Un voyage avec donc une tradition orale, comme je l'ai déjà dit, qui est carrément une tradition séculaire, hein, puisque ça remonte quand même à quelques siècles, toutes ces histoires qui se contaient dans les souks, sur les marchés, et puis qui ont fini par être compilées par des scribes divers et variés. Et puis des traducteurs. Alors là, comme je l'ai déjà dit, on est avec un traducteur particulier, c'est Charles Mardrus, qui quand même a une... Bon, de par sa vie, puisqu'il est né en Égypte, il a grandi et étudié à Beyrouth, et il a connu et voyagé dans toutes les villes arabes, Damas, Bagdad. Donc vraiment quelqu'un qui connaissait de l'intérieur cette tradition orale. Et voilà ce qu'il dit dans son introduction, j'en ai déjà lu quelques extraits, voici ce qu'il dit aussi. Quiconque artiste a vagabondé et connu les voyages et cultivé amoureusement les bains à jourer des adorables cafés populaires dans les vraies villes musulmanes et arabes, le vieux Caire, aux rues pleines d'ombres si fraîches, les souks de Damas, Sanaa, du Yémen, Mascate ou Bagdad. Quiconque a dormi sur la natte immaculée du Bédouin de Palmyre, a rompu le pain et goûté le sel fraternellement dans la gloire du désert avec Ibn Rashid somptueux, savouré tout l'esquis d'une causerie de simplicité antique avec le pur descendant du prophète, le shérif Hussein Ben Ali Ben Haoun, émir de la Mecque sainte, a pu noter l'expression des physionomies pittoresques réunies. Unique, un sentiment tient toute l'assistance qui écoute le conteur. Une hilarité folle. Elle flambe par saccades vitales aux sorties les plus libres de l'héroïque conteur public, gesticulant, mimant surtout et bondissant entre les spectateurs épanouis. Et la griserie vous saisit. Suscité par les mots, par les sons, par la fumée ou l'aphrodisie de l'air, par la subodeur discrète du hashish, don dernier d'Allah, et l'on est navigateur aérien dans la nuit. Voilà donc un extrait de l'introduction de Charles Mardrus sur ses mille et une nuits, et on va y partir tout de suite avec le nettoyeur de tripes. On raconte qu'un jour, à la Mecque, au temps du pèlerinage annuel, au moment où la foule compacte des Hajj faisait les sept tours autour de la Kaaba sainte, un homme se détacha du groupe, s'approcha du mur de la Kaaba et prenant des deux mains le voile sacré qui recouvrait tout l'édifice, se mit dans l'attitude de la prière. Et avec un accent qui lui partait du fond du cœur, s'écria « Fasse Allah que de nouveau cette femme s'irrite contre son mari pour que je puisse coucher avec elle. » Lorsque les autres pèlerins, les Hajj, eurent entendu cette étrange prière dite en ce lieu saint, ils furent si scandalisés qu'ils se précipitèrent sur l'homme le jetèrent à terre et le rassasièrent de coups. Après quoi, ils le traînèrent devant l'émir, dont l'autorité s'exerçait sur tous les pèlerins avec les droits les plus étendus, et lui dirent « Nous avons entendu cet homme, ô émir, proférer des paroles impies en tenant le voile de la Kaaba. » Et ils lui répétèrent les paroles prononcées. Alors l'émir dit « Qu'on le pende !» Mais l'homme se jeta aux pieds de l'émir et lui dit « Oh, oh, émir !» Par les mérites de l'envoyé d'Allah, sur lui la prière et la paix, je te conjure d'écouter d'abord mon histoire. Et tu feras ensuite de moi ce que tu jugeras équitable de faire. L'émir acquiesça d'un signe de tête et le condamné à la pendaison raconta. Sache, ô notre émir, que mon métier consiste à ramasser les immondices des rues et en outre je nettoie les tripes des moutons pour les vendre et gagner ma vie. Or un jour, je marchais tranquillement derrière mon âne chargé de tripes encore pleines que je venais d'enlever de l'abattoir quand je rencontrais quantité de personnes affolées qui s'enfuyaient de tous côtés ou se cachaient à l'intérieur des portes et un peu plus loin. Je vis paraître plusieurs esclaves armés de longs bâtons qui chassaient devant eux tous les passants. Je m'informai de ce que pouvait bien être l'affaire et il me fut répondu que le harem d'un grand personnage allait passer dans la rue et qu'il fallait que la rue fût déserte de passants. Alors moi, sachant que je m'exposais à un grand danger si je persistais à continuer ma route, j'arrêtai mon âne et m'enfonçai avec lui dans un coin de muraille et m'effaçant le plus que je pouvais en tournant le visage du côté du mur pour ne pas être tenté de regarder les femmes de ce grand personnage. Bientôt, j'entendis le passage du harem que je n'osais regarder. Et j'allais songer à me retourner, à continuer mon chemin, quand je me sentis brusquement saisi par deux bras de nègre, et je vis mon âne entre les mains d'un autre nègre qui le prit et s'éloigna. Et moi, terrifié, je tournai la tête et je vis dans la rue, toutes me regardant, 30 adolescentes, au milieu desquelles s'en trouvait une semblable, par ses regards languissants, à une gazelle que la soif rend moins farouche, et par sa taille souple et élégante, aux rameaux flexibles de l'arbre de banc. Et moi, les mains liées derrière le dos par le nègre qui me tenait, je fus entraîné de force par les autres eunuques, malgré mes protestations et malgré les cris et les témoignages de tous les passants qui m'avaient vu contre le mur et disaient à mes ravisseurs « Il n'a rien fait ! C'est un pauvre homme, balayeur d'immondices et nettoyeur de tripes. Il était licite devant Allah d'arrêter et de ligoter un innocent. » Mais eux, sans rien vouloir entendre, continuèrent à m'entraîner derrière le harem. Pendant ce temps, moi, je pensais à moi-même. Quel délit ai-je pu commettre ? Sans doute, ce doit être l'odeur assez désagréable des tripes qui a offusqué l'odorat de la dame, laquelle doit être probablement enceinte et par le fait, a dû ressentir quelques dérangements dans son intérieur. Je crois bien que c'est là le motif. Ou peut-être aussi mon aspect assez dégoûtant et ma robe déchirée qui laisse voir les parties malséantes de mon individu. Oh. Je continuais donc à être ainsi entraîné par les eunuques au milieu des protestations des passants apitoyés sur moi jusqu'à ce que nous fussions tous arrivés à la porte d'une grande maison et que l'homme me fit entrer dans une avant-cour dont je ne saurais jamais dépeindre la magnificence. Et moi, je pensais à mon âme. Voilà l'endroit réservé à mon supplice. Je vais être mis à mort. Et personne de ma famille ne saura jamais rien de ma disparition. Et je pensais aussi, dans ces derniers instants, à mon pauvre âne, qui était si serviable et qui ne butait jamais du pied, jamais, et ne renversait ni les tripes, ni les bottes d'immondices. Mais bientôt, je fus tiré de mes affligeantes pensées par l'arrivée d'un joli petit esclave qui vint me prier doucement de le suivre et me conduisit dans un hammam où me reçurent trois belles esclaves qui me dirent « Hâte-toi de te débarrasser de tes haillons ». Moi, je m'exécutais, et aussitôt, elles m'introduisirent dans la salle chauffée où elles me baignèrent de leurs propres mains, en se chargeant qui de ma tête, qui de mes jambes, qui de mon ventre, me massèrent, me frictionnèrent, me parfumèrent et me séchèrent. Après quoi, elles m'apportèrent de magnifiques habits et me prièrent de m'en revêtir. Mais moi, je fus bien perplexe et je ne sus par quel bout les prendre, ni comment les mettre, n'en ayant jamais vu dans mon existence. Et je dis aux jeunes filles, par Allah, ô mes maîtresses, je crois bien que je vais rester nue, car jamais je ne parviendrai à me vêtir tout seul de ces habits extraordinaires. Alors, elles s'approchèrent de moi, en riant, et m'aidèrent à m'habiller, tout en me chatouillant, en me pinçant et soulevant le poids de ma marchandise, qu'elles trouvèrent énorme et de bon aloi. Et moi, au milieu d'elles, je ne savais ce que j'allais devenir. Quand, ayant fini de m'habiller et de m'asperger avec de l'eau de rose, elles me prirent par les bras, et comme on conduit un nouveau marié, elles me guidèrent vers une salle meublée avec une élégance que jamais ma langue ne saurait dépeindre, et ornée de peintures en lignes entrelacées et coloriées fort agréablement. Et à peine y étais-je entré que je vis, étendu avec nonchalance sur un lit de bambou et d'ivoire, et vêtu d'une robe légère en étoffe de Mossoul, la dame elle-même, entourée de quelques-unes de ses esclaves. En me voyant, elle m'appela, en me faisant signe d'approcher. Je m'approchai, elle me dit de m'asseoir, je m'assis. Elle ordonna alors aux esclaves de nous servir le repas. On nous servit des mets étonnants, dont je ne pourrais jamais citer le nom, n'en ayant jamais de ma vie vu de semblable. J'en mangeai quelques porcelaines, de quoi satisfaire ma faim. Puis, je me lavais les mains pour manger les fruits. Alors, on apporta les coupes des boissons et les cassolettes remplies de parfums. Et après que l'on nous eut parfumés aux vapeurs d'encens et de benjoin, la dame me versa à boire de ses propres mains et but avec moi à la même coupe, jusqu'à ce que nous fussions ivres tous les deux. Alors, elle fit un signe à ses esclaves, qui disparurent toutes et nous laissèrent seuls dans la salle. Aussitôt, elle m'attira à elle et me prit dans ses bras. Et moi, je lui servis la confiture de façon à la dulcifier, en lui donnant à la fois les tranches du fruit et la gelée. Et chaque fois que je la pressais contre moi, je me sentais grisé par le parfum de musc et d'ambre de son corps, et je croyais être en rêve ou tenir dans mes bras quelque ouria du paradis. Nous demeurâmes ainsi enlacés jusqu'au matin. Puis elle me dit que le moment était venu pour moi de me retirer. Mais auparavant, elle me demanda où je demeurais, et lorsque je lui eus donné les indications nécessaires à ce sujet, elle me dit qu'elle me ferait venir au moment favorable, et me donna un mouchoir brodé d'or et d'argent, dans lequel il y avait quelque chose de noué de plusieurs nœuds, en me disant « c'est pour acheter de quoi manger à Tonan ». Et je sortis de chez elle absolument dans le même état que si je sortais du paradis. Lorsque je fus arrivé à la triperie, où j'avais mon logement, je dénouai le mouchoir en me disant qu'il ne contiendrait que 5 ronds de cuivre, j'aurais tout de même de quoi m'acheter à déjeuner. Or, quelle ne fut pas ma surprise d'y trouver 50 mitkals d'or. Je me hâtai de creuser un trou et de les enterrer pour les jours mauvais. Et je m'achetai pour 2 cuivres, du pain et un oignon dont je fis mon repas, assis à la porte de ma triperie, en rêvant à l'aventure qui m'arrivait. À la tombée de la nuit, un petit esclave vint me chercher de la part de celle qui m'aimait. Et moi, je le suivis. Arrivé dans la salle où elle m'attendait, j'embrassai la terre entre ses mains, mais elle me releva aussitôt et s'étendit avec moi sur le lit de bambou et d'ivoire et me fit passer une nuit aussi bénie que la précédente. Et le matin, elle me donna un second mouchoir contenant comme la veille 50 mitkals d'or et je continuai à vivre de la sorte pendant 8 jours entiers. Avec chaque fois un festin de la confiture sèche et humide de part et d'autre et 50 mitkals d'or pour moi. Or, je m'étais rendu un soir chez elle et j'étais déjà sur le lit prêt à déballer ma marchandise, selon la coutume, quand une esclave entra soudain et dit quelques mots à l'oreille de sa maîtresse et m'entraîna vivement hors de la salle pour m'amener à l'étage supérieur où elle m'enferma à clé et s'en alla. Et moi, j'entendis en même temps un grand bruit de chevaux dans la rue et je vis par la fenêtre qui donnait sur la cour entrer dans la maison un jeune homme beau comme la lune, accompagné d'une suite nombreuse de gardes et d'esclaves. Il entra dans la salle où se trouvait l'adolescente et passa avec elle toute la nuit, en ébats, assauts et autres choses semblables. Et moi, j'entendais leurs mouvements et je pouvais compter sur mes doigts le nombre des clous qu'ils enfonçaient au bruit étonnant qu'ils faisaient chaque fois et je pensais à mon âme. Par Allah, ils ont installé sur le lit un établi de forgeron et la barre de fer doit être bien chaude pour que l'enclume gémisse tellement. Enfin, le bruit cessa avec le matin. Et je vis le jeune homme au marteau retentissant sortir par la grande porte et s'en aller, suivi de son escorte. À peine avait-il disparu que l'adolescente vint me trouver et me dit « Tu as sans doute vu le jeune homme qui vient de partir ?» Je répondis « Certainement. » Elle me dit « C'est mon mari. » Mais je vais tout de suite te raconter ce qui s'est passé entre nous et t'expliquer la cause qui m'a fait te choisir pour amant. Sache donc que j'étais assise un jour à côté de lui, dans le jardin, quand il me quitta soudain pour disparaître du côté de la cuisine. Je crus d'abord qu'il était allé satisfaire quelques besoins pressants, mais au bout d'une heure de temps, comme je ne le voyais pas revenir, j'allais à sa recherche, là où je le croyais trouvé, mais n'y était pas. Je revins alors sur mes pas et me dirigeai vers la cuisine pour demander aux servantes de ses nouvelles. En y entrant, je le vis couché sur la natte, avec la servante de la cuisine la plus grossière, celle qui lavait les assiettes. À cette vue, je me retirai en toute hâte, et je fis le serment de ne pas le recevoir dans mon lit avant que je ne me fusse vengé de lui en me livrant, à mon tour, à un homme de la condition la plus basse et de l'aspect le plus dégoûtant. Je me mis aussitôt à parcourir la ville à la recherche de cet homme-là. Or, il y avait déjà 4 jours que je parcourais les rues dans ce but quand je t'ai rencontré et que ton aspect sale et ton odeur infecte m'ont décidé à te choisir comme l'homme le plus dégoûtant entre tous ceux que j'avais vus. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé et j'ai accompli mon serment en me réconciliant avec mon mari seulement après m'être livré à toi. Tu peux donc te retirer. Et être sûr que si mon mari venait accoucher une seconde fois avec l'une de ses esclaves, je ne manquerai pas de te faire appeler pour lui rendre l'appareil. Et, me congédiant, elle me remit encore 400 mitkals de gratification. Et moi, je m'éloignai alors, et je vins ici implorer Allah de pousser le mari à retourner auprès de la servante pour que la femme me fît appeler auprès d'elle encore une fois. Telle est mon histoire au maître émir El-Hajj. En entendant ces paroles, l'émir El-Hajj se tourna vers les assistants et leur dit « Oh, il nous faut pardonner à cet homme ses paroles condamnables à la Kaaba, car son histoire l'excuse largement. » قومي وغيظكم. Contrebourg. Et oui, on part loin avec les mille et une nuits et la musique de Cheikh Habouch, là l'histoire hallucinante de ce nettoyeur de tripes à qui il est arrivé une aventure exceptionnelle. Eh bien, c'est fini quand même pour aujourd'hui, on n'a plus le temps, j'avais prévu d'autres histoires, mais je les garde sous le coude. Les mille et une nuits, ça reprendra, c'est sans fin, là on était vers la 380e nuit, il y en aura d'autres, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, à la prochaine, c'était Marco, compte à rebours. Ciao.